BW. Magazine Santé.
Quelle est l'importance de la vaccination dans la lutte contre Ebola? Selon une récente étude, le risque de développer la maladie diminue de 84% chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées. Et on en parle dans ce magazine. En seconde partie d'émission, il sera question de la prise en charge des patients en traumatologie en République centrafricaine. Vous écoutez Capsule Santé, Carole Assignon au micro. Bonjour à toutes et à tous. Le risque de développer Ebola diminue de 84% chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées. C'est ce qui ressort d'une étude menée par Epicentre, le centre de recherche épidémiologique de Médecins sans frontières, en collaboration avec l'Institut national de recherche biomédicale et le ministère de la Santé publique de la République démocratique du Congo. Cette étude a porté sur l'analyse de données collectées entre 2018 et 2020 lors de la plus grande épidémie d'Ebola en RDC. Quelle est l'importance de l'étude? Comment a-t-elle été menée? Dans quelle mesure la collecte de données est importante pour la lutte contre Ebola à l'avenir, mais aussi contre d'autres épidémies comme celle de Mpox qui sévit actuellement? On en parle avec le docteur Flavio Finga, épidémiologiste. Il est l'un des auteurs de l'étude.
DW.
Bonjour, docteur Flavio Finga.
Bonjour.
Donc, Epicentre a mené une étude dont les résultats ont été récemment publiés. Pour commencer, peut-être rappelez-nous un peu l'importance de cette étude qui révèle quand même que le risque de développer Ebola diminue de 84% chez les personnes vaccinées.
Oui, donc c'est une étude effectivement qui a été faite en rétrospective. Donc il y a eu pendant une épidémie d'Ebola de 2018 à 2020 en République démocratique du Congo, il y a eu le vaccin utilisé à large échelle, donc chez beaucoup de personnes. Et nous, on a regarder des données sur les patients de cette épidémie. À partir de ça, on a pu estimer justement l'efficacité de ce vaccin. Il y avait au préalable eu un essai clinique qui était fait aussi pendant une épidémie, mais c'est des conditions du coup très contrôlées, alors que nous, ce qu'on a estimé là, c'est une valeur vraiment du monde réel.
Comment justement a été menée sur le terrain cette étude? Comment vous avez procédé pour arriver aux conclusions que vous avez tirées?
Pendant qu'il y a eu l'épidémie de 2018 à 2020, Epicentre a aidé, disons, le ministère de la Santé à collecter des données sur les patients qui ont un suspect à l'Ebola. Et nous, ce qu'on a fait après, donc on a commencé bien après que l'épidémie était finie, on a étudié les données. Donc sur chaque patient suspect à Ebola, il y a une entrée dans la base de données qui a été collectée et qui appartient au ministère de la Santé, mais qui était maintenue par Epicentre à l'époque. Et c'est ces données-là qu'on a exploitées pour faire cette étude.
L'étude, vous l'avez dit, a porté sur le vaccin. Il s'agit du RVSVZ-BOF. Comment fonctionne concrètement ce vaccin? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler?
Ce que je peux vous dire, c'est que le vaccin, il est administré aux personnes par voie sous-cutanée, donc c'est une injection, disons. Il provoque une réponse immunitaire qui forme des anticorps contre l'Ebola, sans qu'en même temps on tombe malade. Et du coup, après, si on finit par être exposé au virus Ebola, le corps, il sait répondre à cette exposition, et puis les anticorps qu'on a formés grâce au vaccin nous protègent.
Il s'agit d'un vaccin recommandé par l'OMS pour les personnes notamment les plus à risque de contracter Ebola. Est-ce que grâce à votre étude, on peut dire sans équivoque quand même que ce vaccin est efficace?
Oui, on peut dire ça. Au préalable, on avait une seule étude qui a été faite dans des conditions d'un essai clinique. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé si le vaccin marche pendant une épidémie. Et le résultat montre, on trouve une efficacité de 84%, ce qui veut dire que parmi les gens qui ont été vaccinés, 84 sur 100 n'ont pas attraper le virus Ebola grâce au vaccin.
Collecter systématiquement des données lors des épidémies, c'est une démarche que vous direz que c'est très important pour améliorer la lutte contre certaines maladies?
Oui, cette collecte de données, c'est extrêmement important pour justement pouvoir apprendre sur ces épidémies. Et après, avec ce genre de base de données, il y a beaucoup de travaux très importants qui ont été faits sur, par exemple, pour mieux connaître la maladie à virus Ebola, pour mieux connaître les manières de lutter contre la maladie.
Alors actuellement, la RDC fait face, hein, et comme d'autres pays d'ailleurs, ils font face à une épidémie de Mpox. Est-ce que des données sont également actuellement collectées, comme on l'a fait pour Ebola?
Oui, je le sais par exemple pour la RDC que c'est actuellement en cours, ils collectent des données systématiques sur les patients. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que l'épidémie d'Ebola dont on parlait là, elle était dans une zone relativement petite à l'est de la RDC, alors que la Mpox, ça concerne maintenant presque tout le pays et ça concerne d'autres pays. Donc c'est autrement plus compliqué de collecter des bonnes données d'autant de lieux différents. Un des grands problèmes souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs différents et tous ces acteurs-là doivent se mettre d'accord sur comment est la base de données, qui c'est qui la gère, à qui appartiennent les données. Donc, à la base, les données appartiennent au pays même, donc au ministère de la Santé, mais tout ça doit être clarifié auparavant. Ça prend souvent très longtemps d'avoir des bons accords autour de ça. L'autre chose, c'est que en pratique, il faut, dans une situation d'urgence, avoir la disponibilité de gens pour encoder ces bases de données, pour les maintenir. Il y a des fois, l'infrastructure n'est pas très bonne, donc il y a peut-être un Internet qui est très long ou il n'y en a pas. C'est des conditions qui sont souvent assez difficiles.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau de la fiabilité même des données qui sont collectées?
Oui, tout à fait. Enfin, là, on parle d'une épidémie. Vous pouvez vous imaginer que dans un centre de traitement Ebola, où vous avez des dizaines, voire des centaines de cas suspects Ebola qui arrivent chaque semaine, le souci principal du personnel, des infirmiers, du personnel de la santé, des médecins, etc., c'est pas de remplir des bases de données, mais c'est de soigner les patients. De mettre en place une équipe à part, une équipe de gestion des données, qui reçoivent les bonnes données des soignants, c'est très compliqué parce qu'il y a tout le temps ce problème de ressources qui manque. C'est pour ça aussi, entre autres, que dans un essai clinique où l'idée est de mettre toutes les ressources possibles, c'est plus facile.
Si vous deviez faire des recommandations, par exemple, en ce qui concerne l'épidémie de Mpox actuellement, quelles seraient les recommandations pour collecter de manière fiable et efficace les données?
Je pense qu'il y a pas mal d'efforts qui sont en cours en ce moment, mais vraiment que tous les acteurs travaillent ensemble sur la même base de données. C'est ça qui est très très important parce que souvent ce qu'on voit quand on arrive dans des épidémies, c'est qu'il y a un hôpital X qui utilise tel format, telle base de données, un hôpital Y qui utilise un autre format et à la fin on ne peut pas les joindre parce que c'est peut-être même des variables légèrement différentes. Ce qui est vraiment important, c'est la coordination.
DW.
Vous écoutez Capsule Santé sur la DW. Nous allons nous rendre à présent en Centrafrique où les cas de fractures au cours d'affrontements ou des accidents de la circulation ne manquent pas. Comment les patients sont-ils pris en charge? Jean-Fernand Kouena, notre correspondant sur place, s'est rendu au centre médical MSF Sika à Bangui qui s'occupe de la prise en charge de ces patients.
Nous sommes à l'hôpital MSF de Sika, situé dans le premier arrondissement de Bangui. Cette structure, montée en 2013, a pour objectif de prendre en charge les personnes blessées, notamment dans des affrontements armés ayant secoué la Centrafrique. Mais, au fil du temps, la gratuité et la qualité des services ont entraîné une affluence de patients. En 2023, par exemple, l'hôpital de Sika a enregistré en moyenne 3500 patients aux urgences et 4223 personnes qui sont hors critères de prise en charge. Il est 9h, les patients arrivent au cas par cas. Ils doivent passer par l'infirmier d'accueil, la première étape de leur prise en charge. François Fourcade, chef du projet MSF, explique le processus d'admission des malades.
L'infirmier qui est ici va faire une première étude du patient et voir s'il rentre dans nos critères. S'il ne rentre pas dans nos critères, on ne renvoie pas le patient. Comme ça, on stabilise une fracture fermée, on va mettre une attelle. et on renvoie à l'hôpital communautaire. Quand je dis on renvoie, on réfère avec nos propres ambulances et notre propre personnel médical.
Sarah Dolé, 18 ans, a fait un accident de circulation. Elle fait partie de ceux qui sont pris en charge à l'hôpital MSF de Sika. Sarah a subi une double chirurgie et espère recouvrer la santé.
On était à moto et on partait en vacances. Nous avons été percutés par un véhicule qui a dévié de sa trajectoire. Nous avons frôlé la mort, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu la vie sauve. J'avais une fracture. On nous a d'abord référé à l'hôpital communautaire, mais nous n'avons pas été pris en charge. C'est ainsi qu'on m'a amené chez MSF. Aussitôt arrivé, la même nuit, on s'est occupé de moi et on a traité les plaies et la fracture. La première opération n'a pas marché, mais la deuxième a été faite avec succès. Le médecin m'a dit que le traitement de mon pied, ça va et que bientôt je sortirai. Je suis très contente.
Contrairement à Sarah qui a fait plus d'un mois à l'hôpital, Francis Péco, 33 ans, vient d'être admis il y a une semaine. Il a aussi été victime d'un accident. Après son opération, il apprend à remarcher et suit les instructions de kinésithérapeute.
Le bilan montre une fissure à la jambe droite et un écart à la cheville. Ils m'ont mis les fers. Les douleurs pour l'instant ont considérablement baissé et je suis dans la phase de consolidation.
Le succès enregistré par le centre lui a permis d'étendre son service à la prise en charge des forces de défense et de sécurité grâce à la collaboration avec le CICR, explique François Fourcade.
Actuellement, la collaboration avec les services hospitaliers centrafricains fonctionne très correctement. C'est très souvent le CICR qui prend en charge des militaires. Nous avons souvent des FACA et des militaires qui sont référés ici via le CICR. Nous avons aussi un partenariat avec les forces de police, avec l'OCRB, avec les forces de gendarmerie qui peuvent nous amener aussi bien des blessés de leur rang que des personnes malfaiteurs ou autres que nous prendrons en charge.
Les patients ayant subi un traumatisme grave, qui sont déprimés, ont droit à un accompagnement avant et après leur opération, comme nous l'explique Dr Fredzing Bonga.
Prenons en charge des patients qui le plus souvent sont victimes de plusieurs types de traumatismes. Et dans ces types de traumatismes, ces patients en hospitalisation sont le plus souvent déprimés. Une sorte de dépression qui est beaucoup plus liée au fait qu'ils sont isolés à l'hôpital ou bien liée à la gravité de leur traumatisme. Donc nous avons sur place au niveau du projet une équipe de santé mentale qui prend en charge ces genres de patients. Nous avons des services d'hospitalisation où les médecins sont responsables.
Jean-Fernand, Kouina, Abangui pour la date de valeur.
Et c'est avec ce détour par la Centrafrique que prend fin ce magazine. Merci pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission.